savez que nous essayons toujours, mon frère et moi, d'apporter le plus d'objectivité et de sérénité possible dans tout ce que nous écrivons. Nous n'y avons pas manqué l'an dernier, quand nous avons fait paraître notre volume Cruelle Espagne, très favorable à Franco, qui apparaissait alors à peu près certain du succès.
Les frères Tarot, plume entre autres de Paris Soir, journal réputé modéré. En France, la guerre d'Espagne fera la une des journaux tous les jours, oui, tous les jours. Il faut relire notre presse tricolore, publié entre 1936 et 1939. Il faut mesurer la violence des débats publics face à la gauche au pouvoir, la cruauté des insultes, l'antisémitisme de l'extrême droite. C'est Godille face à la montée en puissance des fascismes européens, Hitler, Mussolini, Franco, face à la menace militaire. Vertige de l'histoire, tant de résonance avec ce que l'on vit ces jours-ci. Daniel Schneiderman s'était déjà penché sur la presse étrangère en 1933, sourde à la fondation de l'Allemagne nazie. Il réitère avec les trois années qui ont précédé la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et il écrit un livre sur la mauvaise foi et l'aveuglement des journalismes féroces, puisqu'il pointe la dérive des forces réactionnaires françaises qui finiront par appeler de leur vœu un régime autoritaire. Féroce et je ne m'y attendais pas, pour la presse dite modérée et pour la presse communiste.
L'instant M. Sonia de Villers. Sur France Inter.
Bonjour Daniel Schneiderman.
Bonjour Sonia de Villers.
Vous êtes journaliste, vous avez créé et puis vous avez passé le pouvoir au sein d'Arrêt sur Image, ce site de critique des médias qu'on connaît bien. Vous publiez aux éditions du Seuil La guerre avant la guerre, 1936-1939, quand la presse se prépare au pire. Un petit mot d'abord, parce que vous passez en revue, vous commencez par passer en revue les grands titres de l'extrême droite française, que sont l'Action française, Gringoire, Je suis partout, on va les regarder dans le détail. Mais un petit mot d'abord sur la réaction des forces réactionnaires françaises, la réaction face aux provocations d'Hitler qui s'agitent entre 1936 et 1939. Qu'est-ce que vous appelez l'hitléro-pacifisme ?
C'est la ligne de conduite, effectivement, de l'extrême droite et de la presse d'extrême droite, l'Action française, Je suis partout, qui sont écartelés, si vous voulez, entre leur nationalisme traditionnel, qui les pousserait plutôt vers la fermeté envers les provocations nazies.
Défendre la France et l'intérêt de la patrie.
Pour défendre les intérêts de la patrie et leur sympathie pour les régimes fascistes et nazis. Qui les poussent en sens inverse. Il y a des numéros de Je suis partout totalement hallucinants dans la période 38-39, si vous voulez, entre Munich et la déclaration de guerre, où on les voit d'un pacifisme échevelé, désespéré à l'idée de la guerre qui avance. On les voit même joindre.
Tout est bon pour ne pas faire la guerre à
bien
Hitler.
Surtout pas de guerre à Hitler. On les voit même se joindre aux pacifistes de gauche traditionnels, comme le syndicat des postiers, par exemple. Vous imaginez Je suis partout faisant l'éloge du syndicat des postiers ou des instituteurs pacifistes.
En effet, et les provocations hitlériennes, écrivez-vous, sont la faute à la décadence française.
Bien sûr.
À la faiblesse de l'État français.
Ils se tiennent tous à une grille de lecture idéologique qui est tout est de la faute de 36, du Front populaire, des 40 heures, des congés payés.
C'est extrêmement troublant, Daniel Schneiderman, de lire ces pages alors que l'extrême droite française se débat là face aux provocations de Vladimir Poutine, face à la Russie, face à la menace militaire. C'est extrêmement troublant.
J'espère bien que c'est troublant.
Oui, c'est ça. C'est le vertige. C'est vraiment le vertige de l'histoire. Vous revenez en détail aussi sur le suicide de Roger Salengro. Roger Salengro, 1936. Il est le ministre de Léon Blum. La gauche est au pouvoir, c'est le Front populaire. Il est accusé d'avoir déserté. Il est accusé d'avoir trahi pendant la Première Guerre mondiale. Il se défend très mal. Il est la cible d'attaques absolument abominables depuis la presse d'extrême droite et la presse antisémite. Écoutez la voix de Léon Blum, qui va lui rendre hommage.
Il n'y a pas d'antidote contre le poison de la calomnie. Une fois versé, il continue d'agir, quoi qu'on fasse. dans le cerveau des indifférents, des hommes de la rue, comme dans le cœur de la victime. Il pervertit l'opinion, car depuis que s'est propagée chez nous la presse de scandale, vous sentez se développer dans l'opinion un goût du scandale.
Et ça aussi, c'est troublant, troublant.
Ce que j'ai découvert, bon, on savait que Salengro avait été victime d'un lynchage de l'hebdomadaire Gringoire. Ce que j'ai découvert de l'intérieur, c'est la mécanique du lynchage. Comment, semaine après semaine, Gringoire harcèle Salengro, ministre de l'Intérieur, en multipliant les accusations fausses, parce qu'évidemment, elles sont toutes fausses. Salengro n'a pas déserté pendant la Grande Guerre, mais effectivement, il se défend très mal, puisqu'il a été blanchi une première fois pendant la Grande Guerre dans des conditions un peu douteuses, bien que son innocence soit absolument certaine. Donc, il se défend très mal, il est ligoté, il est attaqué, il ne sait pas comment répondre, semaine après semaine, les témoignages bidons contre lui recueillis par Gringoire, l'ironie terrible et très efficace de Gringoire.
La fabrication en temps réel d'une fausse information, d'ailleurs.
Oui, la fabrication en temps réel d'une fake news.
Exactement.
Et alors, vous avez commencé votre introduction en parlant de l'Espagne. Moi, ma découverte, si vous voulez, ça a été la permanence de la guerre d'Espagne, donc qui commence en juillet 1936, dans le débat idéologico-médiatique et politique français. Si vous voulez, en commençant à éplucher les journaux de cette période-là, je m'attendais à trouver Hitler à la une tous les jours, oui. À la limite Mussolini, mais pas du tout. Ils y sont de temps en temps en période de crise, mais ce qui mobilise et ce qui dévore les cerveaux français des deux côtés,
c'est la guerre d'Espagne.
Effectivement, la guerre d'Espagne.
On va y arriver, mais quand même, après le suicide de Salengro, moi je fais une découverte. C'est le grand débat qui aura ensuite lieu sur la responsabilité de la presse, sur la diffamation. Faut-il durcir la loi de 1881 ? Faut-il changer les modalités des procès faits à la presse ? Et ça aboutira même au vote d'une nouvelle loi, la loi Marchandeau, qui interdit les propos incitant à la haine raciale dans la presse.
Trois ans plus tard, quand même.
Trois ans plus tard, c'est ça.
Il a quand même fallu trois ans, si vous voulez, pour qu'effectivement la loi Marchandeau mette un terme, on va dire, aux objections antisémites les plus criantes, ouais, de la presse d'extrême droite. Ce qui fait que la presse, les Je suis partout, par exemple, va essayer de contourner cette loi en arrêtant. Ils ont plus le droit d'écrire sur le péril juif. Donc, ils vont écrire sur le péril singe. Et les lecteurs seront...
Le texte de Brasillach que vous citez, Daniel Schneiderman, sur les singes et l'antisémitisme.
Brasillach, effectivement,
Quel tribunal oserait nous condamner si nous dénoncions l'envahissement de la France par des singes ? Aujourd'hui, on en voit partout.
Ouais. Alors, on connaissait les écrits, j'ai pas révélé les écrits. En revanche, je connaissais moins bien, si vous voulez, l'ambiance à Je suis partout. Et c'est quelque chose qui m'intéresse. Ils sont très jeunes. C'est des gamins. Brasillach, il y a une photo célèbre de lui, si vous voulez, quand il écrit ses abjections, on dirait un étudiant d'Hippocagne. Et d'ailleurs, ça fait très peu de temps qu'il n'est plus étudiant d'Hippocagne.
C'est ça.
Et non seulement ils sont très jeunes, et c'est des gamins, mais ils mènent la première expérience en France, je crois, de journal autogéré, puisque Je suis partout est autogéré par ces journalistes. Enfin voilà, il y a une espèce d'atmosphère de monôme abject, si vous voulez, qui m'apparaît.
Et alors, face à cela, vous soulignez aussi la grande passivité de la presse dite modérée, de Paris Soir, on va en parler justement de Paris Soir, face aux attaques absolument abominables et puis vraiment, permanentes, extrêmement dures, répétées, face au harcèlement, face à Salengro, Paris Soir se tait.
Oui, et au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une homogénéité idéologique entre la presse d'extrême droite et la presse dite modérée, c'est-à-dire en gros, parlons cash, la presse de droite, qui se révèle par exemple à l'automne 38. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert, si vous voulez, après Munich. Munich, c'est fin septembre 38.
Rappelez ce que c'est Munich, comme ça on parle à tout le monde.
Alors, Munich, ce sont les accords par lesquels la France et la Grande-Bretagne lâche la Tchécoslovaquie et abandonne la Tchécoslovaquie aux appétits de Hitler. Et c'est depuis unanimement considéré comme le symbole de la capitulation des démocraties face à la menace totalitaire. Donc il y a cet événement de Munich. On est quand même 2 ans après le Front populaire. Et ce que j'ai découvert, qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il y a une tentative... Depuis que Blum a quitté le pouvoir et depuis que c'est Daladier qui est président du Conseil, si vous voulez, Daladier revient sur tous les acquis du Front populaire. Il revient notamment sur la semaine de 40 heures. Et donc il y a un mouvement social. La CGT et le Parti communiste déclenchent une grève fin novembre 1938. Et cette grève est un échec parce que Daladier a fait en sorte de la réprimer. Il y a des syndicalistes qui sont jetés en prison. Donc la grève rate. Et dans la jubilation, si vous voulez, devant l'échec de cette grève, la presse dite modérée rejoint d'une manière spectaculaire la presse d'extrême droite. Et c'est là où, effectivement, c'est un moment très fort, parce qu'on voit qu'au-delà de ce qu'on pourrait imaginer être des différences, je veux dire, la presse modérée n'est pas antisémite, enfin, elle est moins antisémite que la presse d'extrême droite. On voit ce qui les unit profondément. Et ce qui les unit profondément, c'est la...
Donc vous décrivez ce qu'on appelle aujourd'hui une droitisation massive de tout le paysage médiatique français. On va écouter la voix de Pierre Lazareff, qui est donc le rédacteur en chef, directeur de la rédaction de Paris Soir, expliquer ce que c'est pour lui la neutralité et l'objectivité journalistique. Ensuite, vous allez nous expliquer ce que c'est que ce grand journal Paris Soir, qu'on a oublié aujourd'hui, mais qui était vraiment un tirage extrêmement important, extrêmement influent.
Ma conception du journalisme a toujours été qu'il fallait essayer d'apporter aux gens le maximum d'informations le plus objectif possible, le plus rapidement possible, le plus complètement possible, parce que je pense que les lecteurs sont des adultes, comme j'espère que les journalistes sont des adultes, et je pense que notre mission, en tout cas c'est ma conception, c'est de permettre aux lecteurs de se faire eux-mêmes, avec les éléments que nous leur apportons, leurs propres convictions.
Voilà, Lazareff qui sera l'homme de France Soir des années plus tard. Mais pour l'instant, c'est Paris Soir. Alors racontez-nous, Daniel Schneiderman, ce que c'est que Paris Soir.
C'est tout simplement le premier grand journal populaire illustré par la photo et donnant une large place à la photo en France. Mmh. Et c'est immédiatement un très grand succès. Mmh. Ça marche.
Donc la photo, le fait divers, le sport, les vedettes.
Les stars, voilà. Hollywood.
Tout ce qui fait vendre du papier.
Hollywood, etc. Et effectivement, dont l'idéologie affichée est « on ne prend pas parti ». Surtout, on ne prend pas parti. Et par exemple...
Un petit mot d'abord, à qui appartient Paris Soir ? C'est important de le préciser.
À un milliardaire, puisque ce qu'on appelle aujourd'hui la presse des milliardaires n'est pas une nouveauté. Un milliardaire qui s'appelle Jean Prouveau et qui est un mania, notamment de la laine et du textile dans le Nord. Bon, le « on ne prend pas parti » est tout à fait spectaculaire dans le cadre de la guerre d'Espagne. C'est-à-dire que la religion de base de Paris Soir, c'est d'avoir des reporters aussi bien du côté franquiste que du côté du gouvernement légal républicain. Et à partir de là, ils peuvent dire, voyez, nous, on ne prend pas parti. Alors la question, c'est évidemment, est-ce que quand une rébellion militaire se déclare contre un gouvernement légal, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas prendre parti ?
C'est ça, et puis vous le précisez bien, Daniel Schneiderman, c'est-à-dire que la guerre d'Espagne, elle est très présente dans Paris Soir, mais ça n'est jamais une question politique. On n'utilise jamais le mot fascisme. Parlez-nous de Louis Delapré.
Alors, Louis Delapré, oh là ! Louis Delapré est un reporter de Paris Soir.
Ouais.
Donc il est en Espagne et il se trouve que en décembre 1936, il va rentrer de Madrid à Paris et son avion est abattu dans des conditions d'abord mystérieuses. On ne sait pas qui a abattu l'avion et il trouve la mort dans le crash de l'avion. Et 3 semaines après, l'Humanité va déclencher une grande campagne contre Paris Soir. Sur 2 thèmes, sur le thème Paris Soir avait censuré Delapré, puisque Delapré, qui était censé faire des papiers pro-franquistes, avait été sensible aux souffrances des populations bombardées.
Et c'est une réalité, Paris Soir avait vraiment censuré les papiers de Delapré.
Paris Soir avait coupé des passages dans les papiers de Delapré. Et après, on sait tous dans les rédactions que, si vous voulez, il arrive que des papiers trop longs ou peu clairs soient coupés. Bon. Et le deuxième thème de campagne de l'humanité, ça va être de dire, ce sont les franquistes qui ont apparu, qui ont abattu la viande de l'après. Or, il s'avère que c'est pas les franquistes. À la fin des fins, c'est pas les franquistes, mais c'est un appareil républicain piloté par un pilote russe. Il y a déjà les Russes dans l'histoire à l'époque, les soviétiques, qui a abattu de l'après. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi l'UMA déclenche toute cette campagne contre Paris Soir, c'est parce que l'UMA va lancer un concurrent.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on voit bien que les communistes veulent reprendre le récit, veulent reprendre le contrôle du récit. C'est même, ils vont créer un contre-journal à Paris Soir qu'ils appellent Ce Soir, et c'est un contre-récit.
Et c'est un contre-récit qui emprunte tout, on peut le dire, au code de Paris Soir, puisque c'est grande place à la photo, grande place aux vedettes, ce qui n'était pas du tout la ligne de l'UMA. L'UMA, c'était idéologie et politique, voilà, c'était du sérieux.
Donc
l'UMA.
En fait, on crée un journal communiste populaire pour aller marcher sur les plates-bandes de Paris Soir, et on le confie à Aragon.
Et on le confie à Aragon, qui à l'époque n'est pas encore évidemment le grand poète qui va devenir pendant la Résistance et par la suite... qui est un écrivain, qui est un peu voilà, qui cherche un peu un emploi, si vous voulez, qui a fait ses premières armes à l'UMA d'ailleurs.
Vous êtes féroce, Daniel Schneiderman, sur ce que Aragon fera de ce journal communiste Ce Soir, à la veille de la guerre en France.
Ah, pour moi, ça a été horrible. Pour moi, ça a été horrible parce que comment dire, la poésie d'Aragon, j'ai grandi dans la poésie d'Aragon, dans les chansons d'Aragon par Ferrat. Et découvrir, effectivement, j'ai envie de dire, un homme des basses œuvres staliniennes, à l'œuvre tous les jours dans les colonnes de Ce Soir, a pour moi été déchirant. Je veux dire, régulièrement, Aragon reprend les calomnies staliniennes, par exemple contre le PUM, le parti de gauche espagnol, accusé par Staline et par les staliniens d'être infiltré par les hitlériens. Donc tous les jours, on a le petit refrain d'Aragon sur les hitléro-trotskistes du PUM. C'est terrible. C'est une calomnie terrible. À côté de ça, Aragon va avoir des moments lumineux, si vous voulez, aussi comme directeur de Ce Soir, parce que la réalité est complexe quand même.
Ouais.
Et il va se mobiliser d'une façon incroyable en faveur des réfugiés espagnols. Il va partir en reportage à la frontière espagnole, au Boulou. Il va faire des papiers, il va lancer des souscriptions. Il va animer tout ça, si vous voulez. Il va animer la campagne de solidarité avec les réfugiés espagnols. D'ailleurs, encore une passerelle avec aujourd'hui.
Dit que la presse de 36-39, vraiment, c'est le vertige de l'histoire et les correspondances avec ce qu'on vit ces jours-ci. La guerre avant la guerre, c'est paru au Seuil. Et c'est Daniel Schneiderman qui signe ce deuxième livre sur la presse des années 30. Et puis moi, je vous signale que France Inter aussi a réuni les 12 meilleurs historiens de la période. Et ça donne un grand podcast en 10 épisodes qui s'intitule Le fantôme de Philippe Pétain, où là aussi, vous avez les années 30, la menace militaire, les régimes autoritaires, la démocratie face à la guerre. Il y a aussi un livre illustré qui sort partout en librairie. Merci Daniel Schneiderman d'avoir été mon invité ce matin.